France Bleu Paris, découverte. Laurent Petit-Guillaume.
Merci d'avoir choisi France Bleu Paris Découverte, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité des spectacles et de tous les événements sur Paris et la région parisienne. Et aujourd'hui, on va vous donner envie, si c'est pas déjà fait, de découvrir un lieu où l'on teste la voiture de demain à longueur d'année, un lieu où l'on fête régulièrement la voiture, les motos, toute la mobilité, quoi, d'hier et d'aujourd'hui, un lieu d'histoire de l'automobile. Bref, aujourd'hui, on va s'intéresser à l'autodrome de Linas-Montlhéry en Essonne. Et pour en savoir plus, nous sommes avec messieurs Laurent Benoît, président du Lutac Céram, qui gère l'autodrome, Pascal Pantier, l'historien de l'autodrome, et Olivier Sylvain, directeur de la filiale de Lutac Céram, qui organise les événements sur l'autodrome. J'ai tout dit. Bonjour messieurs, bienvenue. Merci d'être là, en tout cas, tous les trois.
Bonjour.
Alors, quelle est l'histoire? On va s'intéresser tout d'abord à l'histoire de ce lieu que les passionnés d'automobile et de moto connaissent bien. Quel est son rôle aujourd'hui? Quel est le rôle de l'autodrome Linas-Montlhéry aujourd'hui? Quels sont les grands rendez-vous proposés au grand public en cette année 2019? On veut tout savoir. Et si vous le voulez bien, on va commencer par l'histoire. Commençons par le début. Replongeons un petit peu dans le tout début de l'autodrome Linas-Montlhéry. Il est inauguré le 4 octobre 1924. Pascal Pantier, vous qui êtes sans doute un passionné, puisque vous êtes l'historien de l'autodrome, donc avant tout sans doute un passionné, vous me confirmez? Vous me confirmez?
Oui,
ça, bien sûr.
Oui.
Racontez-nous pourquoi on décide, en ce début de XXe siècle, de construire en Seine-et-Oise à l'époque. Hein, c'était pas Essonne. Hein. Et puis qui est le créateur de cet autodrome? Pourquoi est-ce qu'on décide de créer à cet endroit-là cet autodrome?
Alors c'est une histoire assez longue, parce qu'en fait au début du siècle, vous avez eu beaucoup de problèmes d'accidents en course. On se rappelle des courses de ville à ville où les gens roulaient sur des routes ouvertes et avaient des tas d'accidents. Donc à partir de 1904, quand il y a eu beaucoup d'accidents, on a commencé à se poser des questions et à essayer de trouver d'autres solutions pour faire des courses.
D'accord.
Donc, les courses sur route ont été interdites et du coup, on s'est rabattu sur des courses sur des routes fermées, autour de villes, choses comme
d'accord.
ça. Voilà. Et à ce moment-là, il y a dans d'autres pays, donc les initiateurs des types d'autodromes, ce sont les Anglais avec Brooklands en 1907 et puis les Américains en 1911 avec Indianapolis, ont inauguré cette méthode, en fait, de faire un anneau dédié à la course automobile.
D'accord. Donc déjà, c'est dédié dès le début à battre des records de vitesse.
Voilà.
Donc ce qui est fait, c'est construit. Voilà, les premiers records arrivent. Je crois qu'il y en a eu beaucoup, d'ailleurs,
dès le début. Oui.
Et pourquoi est-ce que cet autodrome, on dit qu'il était innovant?
Alors, avant d'en arriver à la construction de l'autodrome, donc il y a eu quand même un problème. C'est qu'on a commencé à vouloir en construire un en France vers 1913.
Oui.
Et la guerre est arrivée,
la
guerre a tout arrêté.
Bah oui.
Et après-guerre, on a repris les projets et c'est comme ça qu'on a abouti en 1924 à la construction de l'autodrome qu'on connaît.
D'accord.
Bon, il y a eu d'autres projets,
c'était
très concurrentiel à l'époque.
Donc là, ça marche bien, on fait des courses de voitures et de motos déjà à l'époque, de deux roues?
Voitures, motos et vélos.
Et vélos, puisque je crois que le premier record c'était un vélo, le premier record
les
de
Les premiers
vitesse.
Records, c'était des vélos qui étaient en aspiration derrière des motos ou derrière des voitures.
Ah, carrément.
Et qui dépassaient les 125 km/h de moyenne. Sur une heure. C'était
des choses incroyables. Ouais, c'est plutôt rapide. Mais il est innovant en quoi dès le début, cet autodrome? Je crois qu'il y avait déjà l'éclairage électrique, déjà, c'était quelque chose d'assez innovant.
Oui, très rapidement, ils ont mis des éclairages électriques, mais ça n'a pas duré très très longtemps. Ils ne l'ont pas utilisé très longtemps. Mais l'innovation, c'est surtout sa forme et sa capacité à permettre des records, à la fois des records de vitesse pure et des records d'endurance.
À partir de quand ça devient, puisqu'aujourd'hui ça l'est, un endroit où l'on teste des nouvelles voitures, des nouvelles mobilités, quoi.
Voilà. Alors les tests, ils sont venus plus tard. Ils sont venus à partir des années 30.
D'accord.
Où vous avez des constructeurs. Donc l'anneau a pas duré très longtemps. La première étape de l'anneau, ils ont fait faillite en 1928.
Ah d'accord.
Donc ça, c'est la première catastrophe.
C'est racheté par qui?
Voilà. En fait, par plusieurs. Il y a un gérant qui a été nommé par Et du coup, ils ont décidé, plusieurs constructeurs ont décidé de venir faire des essais.
D'accord.
Et le plus célèbre, c'est Citroën, qui avait carrément un laboratoire d'essais très innovant sur l'autodrome, où on essayait les Rosalie et plus tard les tractions.
D'accord, très bien. Et pendant la guerre, j'imagine que ça n'a pas été détruit, c'est fermé?
Non. En fait, il servait de point de repère pour les avions allemands.
Ah.
Et du coup, personne ne l'a détruit.
Bon, d'accord.
À cause de ça.
D'accord. Et alors, ensuite, à qui appartient-il, après la guerre, cet autonome?
Et il redémarre. Très vite, en fait, avant la fin de la guerre, c'est-à-dire dès 1944, vous avez déjà des groupements de constructeurs qui s'intéressent à l'après-guerre et qui commencent déjà à faire l'entretien de l'autodrome et à envisager d'en faire un centre dédié à l'automobile. Et on a un gros besoin après-guerre, c'est que tout a été détruit, il faut reconstruire l'automobile, il faut reprendre la place de l'automobile, il faut rendre la place de l'automobile française. Et donc là, tout de suite, en fait, donc avant la guerre, il avait été racheté par l'armée.
Ouais.
Et juste après la guerre, l'armée reste gestionnaire de l'ensemble,
ah bon,
mais confie l'organisation de l'autodrome à ce qui était l'ancêtre de l'UTAC, pendant quelques années.
L'UTAC, l'Union Technique de l'Automobile, du Motocycle et du Cycle. Hein. C'est bien cela, je l'ai
oui,
bien
c'est
descendu.
Bien ça, c'est bien ça, c'est tout ce qui roule.
C'est tout ce qui roule. Donc, c'est une société qui reprend la gestion, l'UTAC.
Là, il faut tout reconstruire, parce qu'on dit qu'il n'y a pas eu de destruction, c'est-à-dire que la piste elle-même et l'anneau sont quasi intacts. Il y a quelques trous, des trous de dans la piste, mais c'est quasi intact. Par contre, il n'y a plus de tribune, il n'y a plus de centre de... Il n'y a plus... Tout ce qui était en bois était brûlé pendant la guerre, servi de chauffage, servi de toutes sortes. Donc il n'y a plus que les pistes.
Donc on reconstruit ça, et une société qui devient gestionnaire de l'autodrome, qu'on appelle aujourd'hui l'UTAC Céram, et ben on va en parler dans un instant, puisque nous sommes avec le président Laurent Benoît, président de l'UTAC Céram.
France Bleu Paris.
France Bleu.
M'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi, et regarder les gens tant qu'il y en a. Te parler du bon temps qui est mort ou qui reviendra, en serrant dans ma main tes petits doigts. Puis donner à bouffer à des pigeons idiots, leur filer des coups de pied pour de faux. Et entendre ton rire qui les arde les murs, qui sait surtout guérir mes blessures. Te raconter un peu comment j'étais minot, les bons becs fabuleux. Compliqué chez le marchand, car en sac et minto, caramel à 1 franc, et les Mistral gagnants. À marcher sous la pluie, 5 minutes avec toi, et regarder la vie tant qu'il y en a. Te raconter la terre en te bouffant des yeux, te parler de ta mère un petit peu. Et sauter dans les flaques pour la faire râler, bousiller nos godasses et se marrer. Ton rire, comme on entend la mer s'arrêter, repartir en arrière. Te raconter surtout les carambars d'antan et les cocoboères. Et les frères aux doudous qui nous coupaient les lèvres et nous niquaient les dents. Et les Mistral gagnants. Sur un banc, 5 minutes avec toi, regarder le soleil qui s'en va. Te parler du bon temps qui est mort et je m'en fous. Te dire que les méchants c'est pas nous. Que si moi je suis barge, ce n'est que de tes yeux, car ils ont l'avantage d'être deux. Et entendre ton rire s'envoler aussi haut que s'envolent les cris des oiseaux. Te raconter enfin qu'il faut aimer la vie et l'aimer même si. Prend est assassin et emporte avec lui les rires des enfants et les Mistral gagnants et les Mistral gagnants.
Mistral gagnant, Renaud à 12h18 sur France Bleu Paris.
France Bleu Paris, découverte.
Et bien voilà, c'est en prenant la fameuse Nationale 20, en partant du sud de Paris, bien sûr, que vous pourrez rejoindre l'autodrome de Linas-Montlhéry. Depuis 1924, les passionnés de voitures, de moto et de vélo s'y sont retrouvés, s'y retrouvent régulièrement pour des événements festifs. Mais à quoi sert l'autodrome en dehors de ces rendez-vous dont on parlera dans un instant? Eh bien, la réponse est avec vous, Laurent Benoît. Je rappelle que vous êtes le président de l'UTAC Céram qui gère l'autodrome. Alors, quelle est évidemment la question toute simple, quelle est la mission de votre société, le rôle de l'UTAC Céram?
Alors, notre société Utaxeram, effectivement, est établie depuis 1946 sur l'autodrome, alors avec des noms précédents, effectivement. Et je tiens à dire aussi que c'est une société privée, indépendante, indépendante des constructeurs automobiles. Et elle gère, effectivement, elle a beaucoup commencé sur la partie homologation, parce qu'il fallait trouver une solution pour homologuer les véhicules en France. À l'époque, l'homologation était française. Et puis, progressivement, l'Utaxeram a diversifié ses activités techniques, mais en utilisant beaucoup les pistes qui étaient sur place pour faire beaucoup d'essais, que ce soit des essais de consommation, des essais d'endurance, des essais divers et variés, pour tester l'ensemble des véhicules routiers. C'est-à-dire, ça va du deux-roues au camion en passant par l'automobile.
Quand vous dites homologation au début française, aujourd'hui, c'était
homologation européenne. Oui, aujourd'hui, c'est européen. C'est évidemment très important, puisque c'est ce qui permet, globalement, il y a deux gros... Pour simplifier, l'homologation, elle est sur deux gros métiers, la sécurité,
bien sûr,
et puis l'environnement. La sécurité, c'est la tenue au choc, c'est historique, ça. Et donc, au début, pour la petite histoire, les essais de choc avaient lieu au milieu, justement, du fameux anneau de vitesse. Ils avaient mis un mur...
Ah,
qui existe toujours, et sur ce mur, on venait taper les voitures.
Il
lâchait la voiture, il n'y avait pas de rail, il n'y avait rien à l'époque, et puis la voiture allait s'encastrer dans le mur, donc ça c'était l'histoire. Depuis, on a un magnifique, évidemment, labo très précis de mesure de la sécurité, ce qu'on appelle la sécurité passive, c'est-à-dire sécuriser la vie des passagers et des conducteurs des automobiles lors des crashs. Et puis la sécurité a beaucoup évolué. Ouais, aujourd'hui, on ne protège pas que l'intérieur, on protège aussi les piétons, il y a des chocs piétons, et donc ça, c'est toute la partie sécurité. Et il y a une nouvelle branche de la sécurité qui s'appelle maintenant la sécurité active, qui consiste à faire en sorte que le véhicule n'ait pas d'accident. Donc c'est tout ce qu'on,
c'est tous les
aides à la conduite qui progressivement arrivent sur les véhicules pour le freinage d'urgence, pour un certain nombre de domaines, mais nous amène progressivement au véhicule autonome qu'on verra tout à l'heure.
Et j'entendais ce matin d'ailleurs à la radio que bientôt il y aurait un système automatique pour baisser la vitesse quand on arriverait sur une route à 80 ou 90 km/h en sortant d'un autoroute à 130, et on n'aurait plus besoin de calculer du tout et d'appuyer sur la pédale.
Voilà.
Bon, très bien.
Alors, il y a deux pôles. Il y a ce pôle sécurité et le pôle dit environnement, c'est-à-dire c'est notamment tout ce qui est la pollution, maîtrise des consommations, maîtrise des émissions polluantes, qui sont quand même quelque chose qui a été aussi beaucoup évolué au cours des années pour arriver à des véhicules maintenant à des niveaux de rejet d'émissions polluantes très très faibles. Et puis, on mesure la consommation aussi. Et
c'est tout
ce qu'on a vécu ces dernières années sur l'évolution de ces normes.
Donc, j'imagine que tous vos clients, puisque c'est le terme, ce sont toutes les marques de voitures. Est-ce que c'est un lieu unique en France,
Alors c'est un lieu unique. Et il était unique à la base et il est resté unique. Hein. On pourrait imaginer d'autres centres. Mais vu que c'est européen, c'est surtout que la concurrence est européenne. Et donc, en Allemagne, vous avez les fameux TÜV. Et puis, vous avez d'autres concurrents dans les autres pays.
On pourrait quand même décrire, pour tous ceux et celles qui nous écoutent, à quoi ressemble cet autodrome Linas Montlhéry. Évidemment, il a dû évoluer au fil des années. C'est pas le même qu'en 1924.
Oui.
Quelles sont ses particularités aujourd'hui? Quelles sont les particularités de ce circuit?
En tout cas, l'autodrome, pour se donner une petite idée, c'est un énorme anneau de vitesse, effectivement. Mm-hmm. Au bout de cet anneau de vitesse, il y a un énorme circuit routier de 12
km. 12 km.
Qui date de 1925, un an après l'anneau. Et puis, tout autour de ces pistes, se sont construits des labos, des laboratoires de sécurité, des laboratoires d'analyse. Au fil des années, on a vu le nombre de labos grossir. Et aujourd'hui, c'est deux pôles, finalement. En un même lieu, il y a à la fois toute la partie autodrome et l'événementiel que l'on fait dessus, et puis toute la partie technique, sachant que pour la petite histoire, au début de l'homologation des consommations en stabilisé, les mesures de consommation étaient faites sur le anneau de vitesse. Et donc,
dans les labos.
Mais aujourd'hui, c'est dans les labos.
On a reconstruit les gradins, donc il y a un gradin qui peut accueillir à peu près combien de spectateurs?
Environ 200.
Il est petit. Un petit gradin.
Oui,
très bien. Qui vient travailler à l'Utaxeram?
Alors, qui vient travailler? Eh bien, beaucoup. Qui vient travailler dans, en personnel
oui,
ou
oui,
en personnel?
Oui, oui, il y a que des experts. Ce que, y a,
ah
ça
oui, alors,
beaucoup de,
alors
ça beaucoup
j'ai beaucoup parlé du métier de l'homologation historique. On a beaucoup de d'essais, beaucoup de métiers sur les essais automobiles, mais on a aussi beaucoup d'autres métiers sur le contrôle technique, sur la certification, sur l'événementiel. Et donc, on a une palette de métiers très très importante. Mais globalement, on a beaucoup de techniciens, d'ingénieurs, de l'automobile et surtout des passionnés.
Ça fait
et petit message, on recrute énormément.
Ah, on va en reparler. Ça c'est intéressant, c'est une info intéressante, on recrute énormément et on vous expliquera tout à l'heure pourquoi. Donc j'imagine que c'est un lieu où on vient tester la voiture, les voitures, les motos, enfin tout ce qui concerne la mobilité de demain. Est-ce qu'il y a encore des records qui sont battus de vitesse?
Alors non, parce que le circuit n'est plus homologué sport d'ailleurs, il est homologué loisir pour recevoir du public.
Très bien.
Par contre, effectivement, qu'est-ce qu'on accueille? Ben, vous voyez passer le portail de l'entreprise, vous voyez absolument des véhicules de plus d'un siècle pour lors des événements de l'événementiel. Et puis vous voyez passer, ou les voyez pas parce qu'ils sont confidentiels, les véhicules de demain, parce qu'on travaille sur les véhicules de demain.
Ça c'est fascinant. Alors puisque l'on teste, puisque l'on homologue, puisque l'on innove grâce à l'autodrome de l'INAS Montlhéry, à quoi ressemblera la voiture de demain? Où en est-on sur les nouveaux carburants, les nouvelles matières, sur la sécurité, sur la voiture électrique, sur la voiture sans conducteur, etc., etc. On va continuer à en parler dans un instant dans France Bleu Paris Découverte. Ce sera juste après notre petite rubrique quotidienne dans cette émission, enfin petite grande rubrique, accès privé. Comme chaque jour, notre reporter Héloïse Erignac nous fait découvrir un lieu inédit, un moment inédit. Alors aujourd'hui, l'entraînement des féminines du PSG qui affronteront, je le rappelle, ce soir Chelsea à 19h au stade Jean Bouin. On découvre tout ça juste après ça.
France Bleu Paris. France Bleu.
Le ciel serait d'accord. les choses simples. Si tu aimes les choses simples.
Les choses simples, duo de Jennifer et Slimane sur France Bleu Paris.
12h-13h, France Bleu Découverte. Vous ne verrez plus Paris comme avant.
France Bleu. France Bleu Paris vous ouvre son antenne.
Nous sommes dérangés du lundi au samedi par les marteaux-piqueurs. C'est infernal.
Racontez votre vécu. Mettez du concret dans le débat. Logement, sécurité, services publics, écologie.
Je suis scandalisée par l'incivilité des gens qui s'en foutent, je ne dis pas de tous, mais est scandalisée par le gouvernement qui est lent face à cette planète qui se meurt.
Vos idées, vos expériences, vos solutions, c'est à vous de le dire. Chaque jour dans France Bleu Paris Matin, dès 8h20.
France Bleu Paris.
Midi et demi sur France Bleu Paris, c'est l'heure d'accès privé. Vous le savez, ce soir, les féminines du PSG affrontent Chelsea en quart de finale. Retour de Ligue des Champions. Il y a quelques jours, les optionnaires football féminin du collège Guimauquet de Gennevilliers assistaient à leur entraînement dans l'île de Bougival et rencontraient leurs idoles. Héloïse Erignac, était parmi elles. Et Djoudja et Fatoumata sont aux commentaires.
Alors les filles ont commencé à s'entraîner, là, les féminines du PSG. Elles font quoi ?
Des centres. C'est là, ils sont en train de s'entraîner pour faire des passes et sprinter, et après, ils vont faire un match.
C'est quoi votre place, vous, dans l'équipe ?
Moi, je suis attaquante.
Il faut quoi pour être une bonne attaquante ?
Faut essayer de faire des passes, faut essayer d'aller plus vers le goal, essayer de revenir un petit peu. Et faut bien écouter les conseils.
Ah ben ça y est, ça joue. Qu'est-ce qu'il faut pour faire une bonne équipe ?
Il faut juste des joueurs avec une personnalité différente et puis bien s'entendre en fait. On a déjà pas besoin de parler, on a juste à regarder devant soi, communiquer avec ses camarades, mais très peu parce qu'il n'y en a pas vraiment besoin. C'est un geste direct à faire, regarder celui qui a la balle, se placer au bon endroit, etc. Juste en les regardant, ça nous donne déjà des idées de ce qu'on va faire plus tard, etc. C'est très excitant, genre c'est... Voilà quoi, ça fait quelque chose quoi.
Ça donne envie ?
Ouais.
Envie de les rejoindre ou trop intimidé ?
Intimidé, mais envie de les rejoindre quand même.
Ça y est, il y a de l'autographe.
Ouais, ça y est. Elle a osé.
Bon, pour beaucoup, il faut parler en anglais alors.
Ouais. À ce qui paraît, celle-ci, elle parle anglais. Ils parlent pas tous la même langue.
Ben non, il y a des brésiliennes, des polonaises, des suédoises, des françaises, une chinoise, je crois même.
Ouais. Je suis beaucoup plus pratique avec les françaises quand même.
Comment ? Vous avez eu vos photos avec Anna Glass ou pas ? Elle a fait des photos individuelles avec chacune d'entre vous presque.
Oui, oui.
How many pictures did you take?
Combien de photos avez-vous faites?
I don't know.
Je ne sais pas.
Many?
Beaucoup.
Do you like to see the children?
Ça vous plaît que les filles viennent vous voir?
Yeah, like I'm happy.
Oui, je suis heureuse de pouvoir être un modèle pour des jeunes filles. Les voir heureuses me rend heureuse.
Happy makes me happy.
C'est la première fois que vous venez au PSG voir un entraînement?
Vous avez bien aimé?
Oui.
Vous reviendrez alors? Vous allez venir à notre match contre Chelsea?
Oui.
Ah. Va falloir crier, hein. Va avoir besoin de vous. C'est bien. Bon bah, à bientôt. Au plaisir de vous revoir.
Merci.
Et bonne continuation.
Merci à vous aussi.
C'est F. Périsset.
Ouais. On était pris par les émotions.
Bon alors, c'était comment cet entraînement, les filles ?
C'était très bien.
Qu'est-ce que vous avez aimé voir ?
Bah, comment ils jouaient. C'était pas la même façon que moi.
Ah ouais ? C'est quoi la différence ?
Bah, eux, elles jouent... Enfin, elles sont plus fortes.
Et fortes, elles devront l'être, les féminines du PSG face à Chelsea en quart de finale de Ligue des Champions, ce soir à 19h. Un match à suivre dès 19h, donc sur France Bleu Paris, avec Bruno Salomon, Vanessa Lambert et toute l'équipe. Les joueuses de football du collège Guimauquet seront dans les gradins pour les supporter. Allez les filles, France Bleu Paris est avec vous, bien sûr.
France Bleu Paris, découverte. Laurent Petit-Guillaume.
Alors si vous nous rejoignez, c'est France Bleu Paris Découverte et aujourd'hui on s'intéresse à l'autodrome de Linas-Montlhéry en Essonne bien sûr. France Bleu est partenaire de nombreux rendez-vous qui s'y dérouleront dans les semaines et les mois qui arrivent. Les passionnés de voitures, de motos s'y donnent régulièrement rendez-vous, notamment le week-end dernier. God Save the Car, dédié à la culture anglaise. On a fêté notamment les 60 ans de la Mini, mais il y a plein d'autres choses qui nous attendent, on va en parler. L'autodrome Linas-Montlhéry, c'est un circuit, bien sûr, qui permet, des ateliers autour, bien sûr, qui permet d'homologuer, d'innover, d'appréhender l'avenir de notre mobilité. Alors, quels sont les domaines sur lesquels travaillent les experts de l'UTAC-CERAM? On en parle avec Laurent Benoît, président de l'UTAC-CERAM. Alors, la sécurité, maîtriser les risques fait partie, bien sûr, tout ça, ça fait partie des recherches permanentes lorsqu'on pense la voiture parfaite, celle de demain. Est-ce que, par exemple, on teste de nouveaux matériaux? Est-ce qu'il y aura des nouvelles coques de voiture, enfin, des nouvelles...
Alors, oui, on les teste, mais nous, on les teste au travers des véhicules que l'on teste. Et donc, c'est pour améliorer, effectivement, la résistance au choc des véhicules, pour améliorer, éviter que les passagers ou les conducteurs aient des soucis suite à un crash. Donc, effectivement...
Ils arrivent à trouver encore
Oui, il y a de gros travaux sur ce sujet. C'est pas l'UTAC qui va travailler directement, mais nous, effectivement, on va homologuer et valider le résultat final.
Est-ce que, par exemple, il y a des recherches sur les nouveaux pneus? Je pose cette question.
Bien sûr, les pneus, c'est aussi un domaine où ça travaille beaucoup, parce que vous voyez qu'il y a des contraintes très fortes sur les pneus. Faut que la résistance au roulement soit la plus faible possible pour ne pas consommer. Mais il faut que ça agrippe bien aussi le sol. Il faut que ça tienne sur route mouillée. Il faut pas que ça fasse de bruit. Donc, c'est un champ de contraintes qui est énorme et donc qui génère une des innovations permanentes et qui font de Michelin, notamment sur notre sol le leader mondial dans ce domaine-là. On travaille étroitement avec Michelin.
Est-ce qu'on vous demande également de tester de nouveaux carburants? Parce que là, j'ai bien compris qu'on testait le
véhicule. Oui, alors il y a de nouveaux carburants et puis il y a aussi l'hydrogène qui arrive, par exemple, qui est un peu plus qu'un carburant, mais effectivement qui va au-delà du véhicule électrique pour offrir une solution où il n'y a plus le problème du stockage. Et donc, effectivement, il y a des révolutions ou des évolutions fortes qui arrivent dans ces différents domaines. Et puis, on a des révolutions fortes de ce type-là. Et puis, on a tous les jours des essais. On essaie, pour ne pas le citer avec Total, par exemple, des évolutions de ces carburants pour consommer moins, par exemple. Et donc, valider les gains de consommation avec des roulages qui soient représentatifs d'un client. Si effectivement l'additif MI va être suffisant et va permettre le gain de consommation.
Alors là, vous avez parlé de véhicules d'hydrogène. Il y a quelques semaines, il y a des étudiants d'une grande école d'ingénieurs passionnés qui ont investi le circuit pour tester leur projet. C'est un véhicule innovant, alimenté à l'hydrogène. Ce sont des étudiants de l'ESTACA, l'École supérieure des techniques aéronautiques et des constructions automobiles. C'est assez courant ce genre d'échange avec
je dirais qu'on travaille de plus en plus nous entreprises avec l'écosystème global, c'est-à-dire qu'une entreprise elle peut plus travailler seule, elle travaille avec des startups, elle travaille avec d'autres entreprises, puis elle travaille aussi avec les écoles d'ingénieurs ou les écoles de techniciens supérieurs ou de techniciens et ça c'est très important. Et l'ESTACA dont il est question, j'ai signé un partenariat avec cette école l'année dernière lors du mondial de l'automobile, effectivement, pour nous apporter du savoir aux étudiants et aux étudiants de pouvoir bénéficier aussi de nos infrastructures et pouvoir tester leurs travaux.
Leurs projets, parce que là, ils ont fait ça en dehors de leurs études, c'est vraiment
des
passionnés.
Exactement, donc, il y a beaucoup de passionnés à l'ESTACA.
Vous le disiez, l'autodrome de Linas-Montlhéry recrute, mais dans quel domaine? Alors vous cherchez des...
Alors, c'est très vaste parce que l'entreprise est en croissance assez forte et donc, mais on recrute principalement effectivement dans le domaine au niveau des ingénieurs et des techniciens toujours, et dans les domaines plutôt de demain. Aujourd'hui, on travaille beaucoup sur le véhicule autonome et le véhicule connecté, puisque c'est la révolution qui arrive à côté du véhicule électrique. Il y a le véhicule autonome et connecté qui est une révolution encore plus importante puisqu'elle va transformer la vie. Des conducteurs et des passagers dans l'automobile. Et donc, cette évolution nécessite des nouvelles compétences. Que connecter, c'est donc de la connectivité, c'est des softs, c'est beaucoup de choses. Et le véhicule autonome, c'est lui aussi des évolutions très fortes dans le domaine automobile. Donc, on parle de cybersécurité, on parle donc de de nouveaux domaines techniques où les écoles d'ingénieurs doivent effectivement adapter leur programme pour produire des ingénieurs qui vont pouvoir faire de la France une terre d'excellence dans ces domaines-là. Et c'est clé parce que c'est les premiers qui seront sur ces véhicules-là demain seront les gagnants.
Bon, bah, les jeunes, vous voyez, il faut aller travailler à l'INAS Montlhéry. C'est bien desservi par les transports en commun.
Oui, très bien, oui. Et puis, on accepte volontiers les, évidemment les étudiants et les qui viennent en voiture, hein, parce qu'on a beaucoup on a beaucoup de passionnés de toute façon. Et on et d'ailleurs ça c'est plaisant parce que on voit des jeunes ingénieurs arriver avec leur R21 turbo de l'époque, avec leur 205 GTI de l'époque.
Et ils viennent pas avec des voitures électriques.
Et si, il y en a qui viennent aussi avec des véhicules électriques, mais on voit de tout là encore fois. Donc
si j'ai bien compris, la voiture autonome sans chauffeur, c'est demain quoi.
C'est demain. Et ce que je voulais dire, c'est qu'on a justement à l'intérieur de l'anneau de vitesse, on vient de finir, puisque ça a duré toute l'année 2018, un nouveau, je crois le plus beau centre européen pour les véhicules autonomes et connectés. Et donc là, c'est fabuleux parce qu'on a créé donc des zones de ville, des zones d'autoroute, des zones variées qui représentent donc des usages quotidiens. Et en allant chercher ce qu'on appelle des use cases, des cas d'usage compliqués où le véhicule autonome va pouvoir entre guillemets être pris en défaut, parce que nous, notre métier, c'est d'homologuer, mais aussi d'aider au développement de ces véhicules-là et de sécuriser ces véhicules-là, parce que le but de ces véhicules-là, ça va véritablement être de faire un gain important en nombre de morts sur les routes. Mais avant, il faut s'assurer que ces véhicules-là, effectivement, ont le potentiel pour le faire, quoi.
Ben voilà l'avenir. Bon, le grand public dans tout ça. Comment profite-t-il de l'autodrome Linas Montlhéry? Les passionnés d'auto de moto connaissent le lieu. Mais si c'est pas votre cas, ben on va vous donner quelques rendez-vous à noter dans vos agendas dans la suite de France Bleu Paris Découverte avec Olivier Sylvain, directeur d'EF, hein, c'est bien cela, filiale événementielle et formation de l'UTAXERAM, organisateur des événements et de l'autodrome. C'est à vous dans un instant.
France Bleu Paris.
France Bleu.
Take a breath, rest your head, close your eyes, you are right. Just lay down to my side. Do you feel my heat on your skin? Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right. Hold my step, I'm in command. Can you feel my hips in your hands? And I'm laying down by your side. I taste the sweet of your skin. Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right. So much faster, I drown myself in your holy water, and both my eyes just got so much brighter, and I saw God, oh, he is so much closer. In the dark, I see your smile. Do you feel my heat on my skin? Take off your clothes, blow out the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right, you're right. Take off my clothes, blow out the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes and bless me further. Don't ask me why, don't ask me why, don't ask me why. We'll be right back.
Imani, Don't Be So Shy, et on retourne sur l'autodrome de Linas Morelleri juste après ça.
France Bleu.
On se retrouve pour votre rendez-vous avec de l'info aux côtés de Denis Farou et des histoires d'hommes et de femmes partout en France, amoureux de leur région et qui la font vivre. On vibre et on découvre leurs projets.
Une heure en France avec Frédéric Le Ternier et Denis Farou, aujourd'hui de 13 à 14 heures sur France Bleu.
À tout à l'heure.
France Bleu Paris.
France Bleu.
L'autodrome de Linas Morelleri est à l'honneur aujourd'hui de France Bleu Paris Découverte. On a parlé de son histoire, on a parlé de son rôle dans la recherche, dans l'innovation. On va maintenant s'intéresser aux grands rendez-vous qui attendent les passionnés. Mais oui, parce que évidemment, le grand public est attendu. Et pour cela, nous sommes avec Olivier Sylvain, directeur de EF, la filiale événementielle et formation de l'UTAXERAM, organisateur des événements sur l'autodrome. Alors, Olivier, ce week-end, il y a eu un événement dont on a parlé ici. C'était les Anglais qui débarquaient. Enfin, les Anglais, c'était...
Les Anglaises.
Les Anglaises qui débarquaient. Et on a fêté les 60 ans de la Mini, c'est ça?
On a fêté les 60 ans de la Mini en grande pompe. Il y avait beaucoup de voitures.
Ça a bien marché.
Il y avait 3000 personnes. Oh, bah, voilà. C'était très bien. On peut dire que les tribunes étaient pleines. Elle faisait plus de 200 places, en fait. Beaucoup plus. Mais l'autodrome était vraiment rempli.
Ouais.
Et il faisait très beau. Non. Alors, on a même eu un truc incroyable.
Dites-moi.
On a eu un fog.
Un pardon?
Un fog anglais. Un brouillard.
Ah oui, c'est un brouillard.
Un brouillard anglais.
Pour commencer la journée.
Pour commencer la journée. C'est-à-dire qu'on était vraiment sur le ton de la vie à l'anglaise, quoi. C'était merveilleux.
On aura plus ça après le Brexit. Hein. Ils viendront plus avec le...
J'en ai peur.
Bon, allez, parlons de l'avenir maintenant. Parlez-nous de liberté, égalité, rouler le 8 juin prochain.
Alors, on traite l'automobile à travers les différents pays du monde.
Mmh. Hein,
on a un traitement un petit peu particulier. On utilise les pays pour profiter un petit peu de ça, pour dire, on va parler de la voiture en même temps que de la culture des pays en question. Bon, il y a quelques pays emblématiques, l'Italie, évidemment l'Allemagne, l'Angleterre et la France. Et pour cette année, pour la première fois, nous allons parler de la France. Ce sont des événements qu'on organise que depuis un an.
D'accord.
La France n'était pas à l'honneur l'année dernière, donc nous la mettons à l'honneur cette année. Liberté, égalité, rouler est donc l'événement en question. Et nous allons faire une grande fête autour de l'automobile française. Nous allons mettre à l'honneur la marque Peugeot à travers un grand club un peu emblématique de la marque Peugeot. Nous allons recevoir 50 Bugatti anciennes, ce qui est quand même assez rare. En France, on arrive rarement à réunir autant de Bugatti en un seul endroit. Et ça va être le cas cette fois-ci. Pour info, on va avoir également une Bugatti Chiron, qui est la voiture emblématique du moment chez Bugatti, hein, le nouveau modèle. Qu'est-ce qu'on a prévu? Alors, une grande soirée avec un feu d'artifice.
D'accord.
Une grande fête. Bon, une vraie grande fête.
Il y a souvent de la musique aussi, hein, non?
Il y aura un concert
le week-end dernier.
On aime bien associer la musique. En fait, la culture, c'est l'auto.
Ouais.
C'est un élément de la culture des pays. Et nous, on y associe l'ensemble. Alors, évidemment, la musique, mais également la nourriture. Les food trucks sont normalement en couleur locale.
Très bien. Donc ça, c'est le 8 juin prochain. On peut déjà réserver. Il y a un site internet sur... vous allez sur Autodrome de Linas Morelleri. On peut déjà réserver son 8 juin prochain. Parlez-nous de l'US Motor Show le 28 septembre prochain. Ça, c'est important.
Alors, la thématique, là, évidemment, ce sont les États-Unis. Il se trouve que les propriétaires de voitures américaines sont très mobiles. Ils aiment bien se montrer. Mais ils ont peu l'occasion de rouler. Alors là, on leur donne deux occasions. Une occasion de venir exposer leurs autos en statut statique, comme on dit chez nous, et de les faire rouler. Parce que grâce à l'autodrome, avant tout, c'est l'avantage de l'autodrome de Linas Morelleri, évidemment, c'est de pouvoir rouler. Donc il y a différents plateaux, selon un certain nombre de catégories, bon, souvent par année, mais parfois par puissance des voitures, pour éviter de mélanger des voitures qui roulent lentement avec des voitures qui roulent un peu plus vite. Et là, en l'occurrence, on va leur donner l'occasion de rouler.
Très bien. Bon, ça, c'est pour le 28 septembre prochain. Dites-moi, bientôt, on offrira pour la fête des pères des baptêmes pistes passagers avec pilotes diplômés. Ça correspond à ce...
Alors, c'est pas que pour la fête des pères.
Ben non, nous, on va l'offrir pendant la fête des pères.
Ah, ça, vous pouvez, parce que c'est une occasion rêvée de le faire.
Ben oui, on est partenaires, donc on fait de temps en temps des petits cadeaux à nos auditeurs.
C'est bien, c'est très bien. Mais
c'est quoi? Racontez-moi.
Alors, on a souvent des autos un peu majestueuses ou vraiment exceptionnelles pendant les événements. Et on emmène gagne des gens qui, en l'occurrence, vos auditeurs qui gagneraient, on les emmène dans ces autos, on leur fait faire deux tours d'anneau dans des conditions un petit peu rapides, enfin un petit peu exaltantes, et avec des pilotes diplômés, qu'on appelle des BPGF, sont des pilotes diplômés d'État, pour leur assurer toutes les sécurités possibles et imaginables.
Sensation forte, alors.
Et c'est génial. Enfin, tous les gens qui sortent de ces autos, en général, ont un sourire qui en dit long.
Bon, on en reparlera. Dites-moi, quelles sont les autres grandes dates à retenir en 2019 à l'autodrome de Linas-Montlhéry?
Je voudrais parler, parce qu'on n'a pas parlé du circuit de Mortefontaine.
Eh bien, ici, vous avez 30 secondes.
Alors, c'est le circuit de Mortefontaine qui se trouve au nord de Paris, qui est un deuxième circuit d'essai qui appartient à l'Utaxeram. Et il se trouve que le 30 mars prochain, on organise un GT Prestige. Alors là, en fait, ce sont des voitures très prestigieuses qui roulent sur un circuit aussi exceptionnel, qui est un petit peu moins banking, qui est un peu moins d'angle que le circuit de Mortefontaine, que le circuit de Montlhéry, mais qui est absolument extraordinaire à découvrir.
C'est quand ça?
C'est le 30 mars.
30 mars prochain.
C'est là.
Très bien. Dites-moi, messieurs, vous avez entendu parler d'une statue de Johnny Hallyday en Harley-Davidson à Linas, à côté de l'autodrome?
Oui, mais par la presse interposée.
Ah, vous n'êtes pas du tout responsable de cela, parce qu'il serait sur une Harley-Davidson, bon, il y a un peu de mobilité
non,
aussi.
Non, mais je crois que le maire de Linas, monsieur le maire de Linas, était sur l'affaire.
Bon, très bien. Ben, on va suivre ça de près, mais surtout, je voulais juste poser une question. Le premier record battu, ça je demande à notre ami historien, Pascal Pantier, vous savez, le premier record qui a été battu là-bas en 1900.
Le premier record, c'est un record cycliste.
Hein. Et c'était combien?
Dans les 115 km/h, je crois.
Pas mal. Bon, bah oui.
De l'heure.
Depuis, l'autodrome de Linas-Montlhéry, est devenu autre chose. Vous savez tout. L'avenir de la voiture est entre bonnes mains. Les ingénieurs de l'Utaxeram s'en occupent. Les passionnés ont leur site pour fêter l'automobile et la moto d'hier et de demain. On reparlera bien sûr sur France Bleu Paris des événements à venir. Nous sommes partenaires et c'est tant mieux. Mais sur l'autodrome de Linas-Montlhéry, il se passe toujours plein de choses. Merci beaucoup, messieurs, d'être passés ici aujourd'hui.
Merci beaucoup.
À très bientôt. Bon retour en Essonne.
France Bleu Paris. France Bleu.